Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Comment faire la paix avec son cœur lorsqu'on a perdu un être cher dans un attentat aveugle? Les chemins sont multiples et réservent parfois bien des surprises. Yael Armanet, une franco-israélienne qui a perdu son compagnon en 2002, a accepté, pour les besoins d'un documentaire, de rencontrer la famille du jeune palestinien auteur de l'attentat. Témoignage rare et fort qu'elle donne dans un livre bouleversant et qu'elle raconte pour Orient Hebdo avec émotion et dignité. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Le 31 mars 2002, le soleil peine à percer dans le ciel chargé au-dessus de la ville israélienne d'Haïfa. Mais à l'heure du déjeuner, une forte déflagration retentit dans la brume persistante. Une colonne de fumée s'échappe bientôt du restaurant Matza. Un kamikaze palestinien vient de faire sauter son gilet d'explosifs, semant la mort et la terreur parmi les clients du restaurant, juifs et arabes indistinctement. Parmi les victimes, l'architecte Dove Tchernobroda, une personnalité de la ville et d'Israël, très impliquée dans le dialogue israélo-palestinien. Bonjour Yael Armanet.
Bonjour, enchanté.
Dove Tchernobroda était votre compagnon et 13 ans après, vous publiez chez Le Passeur Éditeur un ouvrage, Haïfa, Jenin, après le silence, ouvrage dans lequel vous racontez comment vous avez finalement décidé de rencontrer la famille du jeune homme, du kamikaze, qui a fait exploser sa bombe ce 31 mars 2002 au restaurant Matza. Et votre livre commence d'ailleurs par raconter, dans les deux premiers chapitres, le dernier jour de Dove Tchernobroda et de son meurtrier qui s'appelle Shadi Tobassi.
Oui, c'était le point de départ de l'écriture finalement, c'est ce qui m'a aidé à commencer ce livre. Je pensais qu'il était très important de raconter cette dernière journée de mon compagnon en parallèle avec la dernière journée du terroriste qui s'est fait exploser. Le hasard veut qu'ils étaient même nés le même jour, le 8 mars. Et c'était important de montrer la différence entre les deux mentalités, entre les deux cultures, entre les deux civilisations, entre les deux manières de voir le conflit. Ce sont évidemment deux manières tout à fait opposées. Dove a toujours été un homme de paix. J'ai rencontré avec lui Arafat. Il a beaucoup fait se rencontrer des leaders palestiniens en Israël quand c'était interdit. C'était avant les accords d'Oslo. Il considérait que on est ennemis, mais on doit se parler. En tant qu'architecte dans les villes et villages arabes de Galilée pendant plus de 30 ans, il considérait qu'à la fois par sa profession et à la fois par ses idéaux socialistes, humanistes, imprégnés d'une culture juive très profonde, il fallait absolument chercher par tous les moyens créer des ponts avec la population arabe d'Israël, mais aussi avec la population palestinienne.
Alors pour vous, le silence, c'est cette période entre 2002 et aussi en 2006, la rencontre avec un cinéaste allemand qui s'appelle Markus Wetter.
Voilà.
Vous voyez son film, Le cœur de Jenin, The Heart of Jenin, et là, c'est le déclic.
Ça a été un hasard qui m'a fait finalement m'engager dans un processus de réconciliation avec donc la famille palestinienne auquel je ne m'étais pas préparée. Je ne pensais absolument pas faire cette démarche.
Mais oui, c'est-à-dire que lui vous propose de faire un film, un documentaire sur votre histoire et de rencontrer la famille du jeune terroriste.
Voilà. Donc il y a eu le hasard de cette rencontre. Je viens voir ce film, Le cœur de Jenin, qui est l'histoire d'un père palestinien qui a perdu son fils de 11 ans dans une action de l'armée israélienne à Jenin. Par erreur, les soldats israéliens ont cru qu'il tenait une arme. En fait, c'était un jouet. Et cet enfant a été blessé mortellement. Et les parents, donc le père et la mère, ont décidé de faire un don d'organes à des enfants israéliens. Maintenant, c'était un geste de paix. Les enfants n'ont pas à souffrir du conflit. C'est une affaire d'adultes. Et le hasard des dons d'organes a fait que les enfants qui ont été sauvés étaient arabes, israéliens et juifs israéliens. Et moi, je viens à Haïfa assister à la représentation de ce film qui était donc en première en Israël. Et je découvre ce message, je découvre ce metteur en scène. Et je décide à la fin de la représentation de me lever, de parler et de raconter le message de Dov, de dire que Dov a été tué par quelqu'un de Jenin. Vous avez ici un enfant de Jenin qui a été tué, et je m'adresser aux jeunes arabes israéliens qui étaient dans la salle en leur disant, n'oubliez pas ces deux histoires. Dans le conflit, il n'y a pas des victimes et des bourreaux. On est tous responsables.
Je suis architecte d'intérieur. J'ai connu Dov par mon métier. Et nous sommes devenus de très bons amis. On m'a raconté qu'il n'avait pas survécu à l'attentat. Qu'il était mort sur le coup. Sur moi, des éclats de bombes dans tous les endroits possibles. Chez lui, ça a été un seul à la tête. Tué sur le coup. C'est comme ça. Un à la tête et voilà. C'était fini.
Jenia a été grièvement blessée, mais elle s'en est tirée. Elle était avec Dov au restaurant. Dans la fumée, dans les flammes, dans cet immense silence d'après l'attentat. Avant que les blessés et les agonisants commencent à crier, les morts, eux, n'ont pas su qu'ils étaient morts.
Extrait du documentaire « Après le silence » où l'on entend votre voix, Yael Armanet. Alors vous-même, vous avez rencontré la famille palestinienne du jeune meurtrier. Vous avez commencé par appeler le père du garçon. Ça a été difficile, j'imagine.
Ça a été très difficile. C'est encore une fois une démarche qui s'est faite progressivement. Rien n'a été fait d'une manière très spontanée parce qu'il fallait se préparer à cette rencontre. C'était respecter cet homme, prendre en considération le fait qu'on est de mentalités différentes. Donc, lui demander d'abord s'il est d'accord pour parler avec moi. Je suis quand même une femme. Lui dire que je viendrai, que je voudrais beaucoup lui rendre visite avec le fils aîné de mon mari qui était tout à fait d'accord avec ma démarche et qui pensait comme moi que son père aurait fait cette démarche depuis longtemps s'il était resté en vie. Venir avec une amie aussi, tous les deux me tenaient la main. Cette amie et le fils de Dov m'ont tenu la main à l'enterrement en permanence, m'ont tenu la main jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, ce sont les deux personnes les plus proches dans ma vie. Et venir avec deux représentants du forum des familles israélienne palestinienne, qui comprend environ 600 familles palestiniennes et israéliennes qui ont perdu chacun un proche dans le conflit et qui ont décidé de briser le cercle vicieux de la violence, de faire un travail d'éducation dans les écoles, parler de leur douleur, de ce qu'ils ont vécu et comment ils ont choisi de renoncer à la vengeance, à finalement perpétuer ce malheur dans d'autres familles.
Est-ce que c'est ce que l'on appelle les refusants ? C'est un néologisme.
Oui.
Mais est-ce que ce sont eux ? Est-ce qu'il y en a beaucoup en Israël ? De part et d'autre d'ailleurs, y compris du côté palestinien.
Je pense qu'il y en a beaucoup et peut-être même je me permets de dire qu'il y en a peut-être beaucoup plus qu'on ne le sait. Ces refusants ont créé quelque chose de merveilleux pendant cet été, avant que la guerre commence. Ils ont créé une tente de la réconciliation à Tel Aviv, dans laquelle tous les soirs, toujours des Palestiniens et des Israéliens, membres du forum, rencontrent ce public et font passer leur message de réconciliation, qui est plus important que le pardon. La réconciliation, c'est vraiment construire un avenir commun, des intérêts communs. Et ce qui m'émeut, et c'est vraiment les bonnes nouvelles d'Israël, c'est que 2000 personnes se sont intégrées dans ce forum, se sont inscrites à ce forum depuis que ce forum est sorti dans la rue pendant cette dernière guerre de Gaza.
Par rapport aux parents du jeune terroriste qui a tué Dov, vous cherchez à être réconciliés mais pas forcément amis.
C'est difficile de parler d'amitié quand vous avez quand même, il faut pas l'oublier, des intérêts pour l'instant qui sont différents, puisque l'État palestinien n'a pas encore été créé. Évidemment, je souhaiterais que cet État soit créé. Vous avez ce mur qui est pour moi important parce que c'est un mur sécuritaire, mais c'est un mur que beaucoup de gens de gauche, comme moi, pensent que lorsque le processus sera repris, lorsqu'on aura des frontières sûres et définitives, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Israël, depuis 1948, nous n'avons que des lignes de cessez-le-feu. Je souhaite que ce mur soit déconstruit comme des Legos. Ça s'est produit à Gilo, par exemple, près de Jérusalem, où la communication avec les deux villages arabes qui sont en face de Gilo se passe très bien. Le mur a été démonté. Je voudrais beaucoup que ces échanges se passent. Il y a la possibilité de vivre ensemble.
Yael Armanet, un dernier mot concernant votre livre « Haïfa, Jénine après le silence ». Dans ce livre, vous vous adressez à Dov. En fait, c'est à lui que vous écrivez. En fait, vous lui racontez la suite, en quelque sorte.
C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Et c'est aussi une chose qui m'a paru évidente quand j'ai commencé à écrire. Cette écriture m'a permis aussi de terminer un chapitre de ma vie, de pouvoir remettre un point, de pouvoir peut-être aussi laisser dormir Dov en paix, parce qu'il le mérite. Et en commençant avec deux chapitres, donc deux monologues sur ce dernier jour des deux personnes clés de ce récit, en poursuivant ensuite le dialogue avec Dov, je voulais en fait éviter la biographie, les pièges de tout ce qui peut se passer lorsqu'on parle de quelqu'un qui est décédé et qui ne peut pas avoir la réplique. Donc en lui racontant la suite, j'ai pu aussi lui raconter qu'est-ce qui se passe avec ses enfants. Je lui annonce qu'il a un arrière-petit-fils qui va bientôt naître, qui est né d'ailleurs il y a 2 semaines. Et en même temps, je lui raconte évidemment ma reconstruction personnelle. Comment j'ai réussi, grâce à mon psychologue, à beaucoup d'amis, à beaucoup d'actions, etc., à sortir d'une très longue dépression, à la suite de laquelle j'ai pu envisager cette démarche de réconciliation à Jénine. Et c'était une manière d'écrire à quatre mains. Voilà.
Merci Yael Armanet. Donc je renvoie sur votre ouvrage « Haïfa, Jénine, après le silence » qui est publié aux éditions Le Passeur.
Merci beaucoup. Merci à vous.
C'est le phénomène rock israélien de ces dernières années, Asaf Avidan. Son dernier album vient de sortir avec ce morceau Bang Bang.
I love you like the roots in the sand. And I love you like God loves his plan. Back again.
Asaf Avidan sera au Mayan de Los Angeles demain soir et au Zénith de Paris le 18 mars.
I love you.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, la Libye fait une fois de plus la une des journaux arabes après l'assassinat de 21 Égyptiens par le groupe État islamique et les raids de représailles aériennes du Caire.
Oui, pour le journal égyptien Al-Tahrir, la communauté internationale a laissé tomber la Libye et a laissé aussi l'Égypte seule face au terrorisme. Alors, une référence à l'amendement par le Conseil de sécurité de l'ONU de la proposition égyptienne et libyenne. Il s'agit évidemment du gouvernement de Tobrouk qui est reconnu par la communauté internationale et pas du gouvernement de Tripoli qui, lui, est soutenu par les islamistes, donc la proposition égyptienne demandait qu'il y ait une coalition internationale contre le groupe État islamique en Libye. Alors pour la presse égyptienne, les Occidentaux ont préféré temporiser dans l'espoir de parvenir à un gouvernement d'union nationale qui comprendrait les islamistes et les nationalistes courte vue, estime un éditorialiste, selon lequel les Occidentaux ne bougeront que quand le terrorisme libyen les aura frappés. Il sera alors probablement trop tard.
Oui, ce n'est pas impossible. Ajoutons, Alexandre, que la tension monte entre l'Égypte et le Qatar à propos de ces raids aériens.
Oui, et les journaux arabes titrent sur Le Caire qui accuse Doha de soutenir le terrorisme. Alors, des accusations qui ont été faites par le représentant de l'Égypte à la Ligue arabe lors du vote d'une motion qui soutenait l'Égypte dans ses raids contre l'État islamique en Libye, le Qatar avait été le seul pays à émettre des réserves. Alors, suite aux accusations égyptiennes, le Qatar a rappelé son ambassadeur en consultation et le chef de la diplomatie qatarienne accuse sur les pages du journal Al-Haya les médias égyptiens de verser de l'huile sur le feu. Alors, côté égyptien, c'est la chaîne qatarienne Al Jazeera qui, elle, est accusée de verser de l'huile sur le feu. Alors, résultat, lors d'une réunion du Conseil de coopération du Golfe, la presse rapporte des déclarations critiquant les accusations égyptiennes contre le Qatar, mais soutenant l'Égypte dans sa lutte contre le terrorisme.
La presse israélienne, Michel Paul, préfère s'intéresser à des sujets plutôt israélo-israéliens, et notamment ce rapport publié en Israël sur les dépenses du couple Netanyahou.
Beaucoup d'encre, en effet, sur cette affaire qui fait les titres de la presse, mais aussi des caricatures et des articles parfois satiriques. Eric, comme l'explique un chroniqueur, les déboires de la famille Netanyahou sont au centre de la campagne électorale. Les autres questions, les vrais problèmes, comme le conflit israélo-palestinien, la pauvreté, le dossier iranien, eh bien, il n'en est pas question. L'éditorialiste du Yedioth Ahronoth le souligne, Netanyahou est confronté à plusieurs menaces, mais aucune d'entre elles n'est le nucléaire iranien. Il n'est pas impensable qu'à l'issue des élections du 17 mars prochain, Benjamin Netanyahou ne soit pas en mesure de mettre sur pied une coalition gouvernementale viable. Alors, on retrouve aussi, surtout, la tentative désespérée du couple Netanyahou de montrer, à la veille de la publication du rapport, leurs dépenses pour l'entretien des résidences, qu'en fait, ils vivent chichement, pratiquement des SDF. Estime même un chroniqueur.
Ce qui nous amène directement, Michel, aux élections qui se rapprochent.
Alors c'est toujours les deux grands partis pratiquement ex aequo, celui du Premier ministre, le Likoud, et aussi la nouvelle alliance centre-gauche, l'Union sioniste. Mais l'élément nouveau, c'est le bond en avant de la liste commune aux partis arabes, qui devient de facto, du moins dans les sondages, la troisième ou quatrième formation. Haaretz consacre un dossier à ce phénomène intéressant, avec un titre à retenir, la majorité de la population arabe israélienne en faveur d'une participation à une coalition gouvernementale, et cela pourrait changer les règles du jeu. 70% des Arabes israéliens estiment que les questions socio-économiques sont plus importantes que la solution du conflit israélo-palestinien. Un Arabe israélien sur 9 serait prêt à proposer que Netanyahou forme le nouveau gouvernement. Et surtout, Eric, il faut s'attendre à une participation record de ce secteur de la population aux prochaines élections.
Où l'on reparle du groupe État islamique, Alexandre, mais cette fois, il s'agit de trafic d'organes humains.
Oui, et c'est le journal Sharq al-Awsat qui cite un expert irakien qui explique que des prélèvements d'organes sont opérés sur les condamnés à mort dans les hôpitaux contrôlés par Daesh, le nom arabe du groupe État islamique, dans la ville de Mossoul. Alors, les condamnés à mort, selon cet expert, sont forcés de faire le don de leurs reins, entre autres, pour obtenir un traitement de faveur avant d'être exécuté. Et la députée irakienne Intisar El-Jabouri déclare même au journal que le commerce d'organes humains est devenu une des sources de financement de Daesh.
Michel Paul, le Hamas s'installerait au Liban. Info ou intox ?
Info pour Haaretz, qui en fait un de ses titres. Le Hamas aurait l'intention d'installer des structures offensives en dehors de la bande de Gaza, plus spécifiquement au Liban Sud. Le journal cite une source au sein de l'organisation selon laquelle des tirs vers Israël auraient déjà eu lieu pendant l'opération Bordure de Protection l'été dernier.
Et votre photo du jour, Michel ?
Bien, ce sont bien sûr les nombreuses photos de Jérusalem enneigée, plus de 30 cm, avec les titres à l'avenant. La palme revient à Yedioth avec 50 nuances de blanc dans la ville sainte.
Allusion au livre et au film Coquin, 50 nuances de grès. Merci Michel, merci Alexandre. C'est Mathieu Salabert qui a réalisé cette émission. Émission que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook et podcastée sur le site de la radio www.rfi.fr. Bonne semaine et à samedi prochain.
Géopolitique, le débat.